Alors,
Bonjour.
j'allume de l'encens parce que c'est un petit peu ma passion ces derniers temps. Je crois que j'ai acheté 4 kilos d'encens, un encens bien précis. Là, j'ai pas le nom en tête. Je sais qu'en plus, il s'achète aussi chez Cultura. Et là, je l'avais acheté dans une boutique de pierre. Je suis fan. Voilà, moi, cet encens-là me détend, me met bien. Donc, j'ai allumé l'encens pour être dans cet esprit de cocooning pour le podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est un sujet qu'on m'a demandé plusieurs fois depuis plusieurs mois. Ça va pas forcément avec la vibe et en même temps, oui. Enfin, genre, moi ça va. Mais du coup, on va parler de dépression. Donc déjà, ouais, gros délire. Mais en fait, je trouvais que c'était hyper intéressant d'aborder la dépression de mon prisme. Mais évidemment, moi, comme je le vois comme quelque chose au final, alors j'ai pas envie de dire positif, et parce que, encore une fois, j'ai pas envie d'être tranchante dans mon point de vue, j'aime bien justement la nuance, mais en tout cas, j'ai envie d'aborder la dépression d'une autre manière que celle de la lutte, et c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler ce podcast. Et si j'étais libre de traverser pleinement ma dépression? Je suis cancer, ascendant scorpion, lune en cancer, et je ne vous ferai pas l'analyse de mon thème astral. Mais autant vous dire que tout ce qui est émotion, d'ailleurs, va souvent, les gens pensent que les gens qui sont hyper émotionnels sont des hyper dépressifs. Mais par contre, il y a quelque chose, il y a une corrélation qui n'est pas totalement fausse dans le sens où, comme on est dans une société qui rejette l'émotionnel, bah, on peut être amené justement dans ce syndrome de culpabilité et. Ça va, Lucky? Bah, ça doit être l'encens, il n'a pas trop aimé. Sors de la chambre, mon doudou. Sors de la chambre, mon bébé. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance quand même à se retenir parfois d'être pleinement incarné dans son émotion, d'être pleinement incarné dans son refus. Bon, évidemment, on joue des rôles. La dépression, je vais l'aborder vraiment de mon prisme. Encore une fois, ce podcast ne se veut pas comme un podcast professionnel, mais comme un podcast de partage d'une meuf, moi, Harmonie, qui suis un évêque coach en libération corps-esprit, donc avec évidemment mon analyse des choses. Et tout est soumis à débat. Hein. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous jetez ce que vous avez envie de prendre. Encore une fois, je n'ai pas la vérité ultime. Par contre, ce qui est intéressant, c'est du fait que comme moi, je suis un être très émotionnel, je fonctionne, mon langage est très émotionnel. Malgré tout qu'il soit très émotionnel, j'aime aussi beaucoup l'action. J'aime les choses qui sont concrètes, qui sont ancrées, qui sont incarnées. J'aime quand ce qui est dit est illustré. Je n'aime pas juste la parole, juste le mot tel qu'il est, quoi qu'il arrive. Même quand j'ai une émotion, j'ai besoin ensuite que cette émotion, je la traverse, je la vive, je l'exprime d'une autre manière qu'à travers juste l'émotion en elle-même, avec le mot ou avec le rire, la larme, la colère, etc. J'ai besoin de le traverser autrement. Et donc du coup, c'est vrai que moi, depuis la tendre enfance, j'ai quand même fait plusieurs dépressions. Je pense que certaines, je ne m'en souviens pas. Certaines sont floues. Mais en tout cas, je sais que j'ai souvent dit dans ma vie, mais je crois que j'ai fait une dépression. En tout cas, il y en a bien une sûre à l'âge adulte que j'ai faite, donc de mes 29 à mes 30 ans, un petit peu avant mes 30 ans. Et clairement, c'était la pire dépression de ma vie. C'est-à-dire, quand j'y pense à cette période, je vois un nuage gris. C'est genre, c'est flou. Il y a quelque chose de flou. Je ne suis pas dans le. La période est floue. Et en même temps. En même temps, c'est un peu fou ce que je vais vous dire, parce que par rapport à ce que j'ai vécu, ça m'avait permis à cette époque-là. Alors, j'étais au chômage, et en même temps, on a traversé le Covid. Et quand on a traversé le Covid, j'allais quand même mieux. Mais la dépression, vous savez, elle n'arrive pas en toquant à votre porte, en rentrant comme ça, franchement, et elle part pas non plus de la même manière. Donc, il y a un peu, pour moi, la dépression, il y a un petit peu après, le après, doucement, où on sent que ça va mieux, etc., etc. Et le corps, lui, par contre, a des souvenirs de la dépression, donc il lui faut un petit temps de réadaptation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. J'en ai eu une, et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup me baser sur celle-là. Mais en tout cas, voilà, par rapport à mon langage émotionnel, je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui me suivent. Mais moi aussi, je vais tousser, attention, par rapport à l'encens. Je le tourne un peu. Et en fait, si vous voulez, j'ai. Si tu veux, si vous voulez, je sais pas si je vous tutoie ou je vous vois, c'est une bonne question. On me dirait. Envoyez-moi un message sur Insta pour me dire si vous préférez tutoiement ou vouvoiement, je verrai bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'ai vécu la dernière dépression, elle n'a pas prévenu. Elle m'a pas dit coucou, tu vas être en dépression. Et en plus, même quand je sentais que j'étais mal, j'avais du mal à comprendre pourquoi. Il y avait quelque chose pour moi qui n'était pas clair. Alors, j'ai vécu des moments de déprime intense, où mon émotion, en plus, bah, je me sentais coupable d'aller pas bien, parce que j'ai pas appris à accueillir le fait de pas aller bien. J'ai été éduquée dans l'idée que, voilà, il faut se dépasser, il faut être un combattant, il faut y aller. Et on m'a pas appris à juste me dire, écoute, t'as une émotion super forte et t'as raison. Peut-être que nous, on ne le vivrait pas aussi fort que toi, mais permets-toi de le vivre et de l'exprimer de la manière que tu veux. Moi, j'ai déjà eu une gifle parce que j'avais une émotion trop forte où je pleurais pour quelque chose parce que ça ne semblait pas légitime du coup. Et ça m'a mis vraiment dans une position où je dois toujours être une warrior. Et quand j'ai commencé, comment a commencé cette dépression? Et je vais vous dire en fait pour moi en quoi la traverser pleinement est une opportunité de fou pour avancer. Pour moi, c'est une opportunité. La dépression est une vraie opportunité. Évidemment, quand on est dedans, je suis retombée sur des anciennes stories. Je me souviens où personne ne savait que j'étais en dépression. Moi, je le savais. Et je m'étais. Je sais que Dieu a un plan. Je ne sais pas quoi, mais je sais que Dieu a un plan et je ne sais pas quand non plus. Et c'est trop beau. Quand je vois le après, je me dis, c'est incroyable. Mais en tout cas, quand on est dedans, évidemment, on n'a pas du tout envie de nous dire que c'est une opportunité. On a juste envie de vous dire d'aller tout faire enculer. Au passage, je pense que c'est le terme qu'on a envie de dire, hein. Comme quand on va mal, en fait, on n'a pas envie qu'on vienne nous rassurer avec des conneries là, que oui, non, mais il faut que tu fasses tel ou tel effort, mais t'inquiète, ça va aller. Non, hein, c'est comme oui, un perdu, 10 heures trouvé. Bullshit. Oui, mais vous mettez. Non, je suis en rupture, je suis en deuil amoureux, laisse-moi souffrir dans ma blessure. Il y a aussi ce truc hein, qui est un peu relou quand on n'est pas bien, c'est que tout le monde a du mal à réagir du mieux qu'on peut, mais franchement, en général, on veut juste de la présence, on veut pas qu'on nous dise que ça va aller quand on voit qu'on a tout fait et que ça va pas, même si on sait que ça va aller. Enfin, on espère que ça va aller. Et donc, en fait, comment ça a commencé? Ça a commencé juste après une nouvelle rencontre. J'ai été un an avec une personne et cette relation, elle était hyper significative parce que mon corps, en fait, lui, il a hyper bien réagi en définitive. La dépression a été une bonne réaction de sa part puisque, bah, comme j'ai pas écouté sciemment les signes, bah, la dépression, elle est venue, elle a fait ah ouais, bah, on va se casser du coup, on va t'abandonner un petit peu là pour que tu te réveilles. Je vous explique. Je rentre dans cette relation, je tombe amoureuse, je pense déjà du physique de la personne. Je trouve cet homme tellement beau, je me dis waouh, et il dégage quelque chose et ça me fait un truc. Je suis séparée depuis un an à ce moment-là. Et la personne que j'aimais, c'est un homme dont je vous parle très souvent dans mes podcasts, que j'aime toujours, hein, c'est pas du tout un mystère, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on aime toujours quelqu'un qu'on a aimé, hein, c'est normal. Cette personne-là, je lui ai couru après pendant un an, enfin un peu moins d'un an, et puis bah, comme il ne voulait pas se remettre en couple avec moi malgré l'amour qu'on se portait, eh bien, c'est l'histoire de notre vie d'ailleurs, eh bien, bah, j'ai fait mon deuil, j'ai coupé les ponts et 3-4 mois après, j'ai rencontré cette nouvelle personne. Et quand j'ai rencontré cette nouvelle personne, mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts si vous les suivez, en fait, je me souviens que le premier soir où on s'est vu, on a couché ensemble, j'avais pas forcément kiffé, pour être honnête. Je m'étais juste dit, bon, il y a tellement une connexion, genre dans le toucher, dans le regard, j'admire tellement ça, enfin, j'admire tellement la personne, je me sens tellement bien en sa présence. Que du coup, je vais faire l'impasse sur le fait que cette connexion sexuelle n'était pas, voire était bizarre. Il y avait quelque chose de bizarre. Et on avait dormi dans un lit, une place. Et je me souviens, je me suis réveillée avec un mal de dos comme jamais. Et comme en fait, je tournais mon émission quelques jours plus tard, donc mon émission The Wonder Coach Show, la saison 1, saison 2 2024, on croise les doigts. Le truc, c'est que, donc ça, je vous dis ça, c'était en 2019, hein, c'est que du coup, bah, j'ai pas fait le lien forcément avec cette personne. Je me suis juste dit, j'ai mal au dos parce que bah, j'ai mal dormi. Et puis, bah, c'est le stress de l'émission. Enfin, on va commencer le tournage dans 3-4 jours, 4, 5 jours, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, j'étais dans un état, voilà. Donc, je fais pas le lien. Et en fait, assez rapidement, il y a eu des trucs bizarres que j'ai pas écoutés. Et j'ai eu une sensation de revivre face à une personne malsaine pour moi. Je ne vais pas dire une mauvaise personne, je suis qui pour dire qu'une personne est mauvaise, mais en tout cas une personne malsaine pour moi. Et ça m'a fait repenser à des sentiments que j'ai pu éprouver d'alerte. Et je n'ai pas écouté parce que je me suis dit, bah, je pense que c'était un peu aussi, un peu genre la chance de ma vie. C'est ce qu'on se dit quand on rencontre quelqu'un et que ça fait longtemps qu'on est célibataire ou qu'on a une errance sentimentale. On se dit, ah non, mais non, lui il me donne de l'amour. Alors, c'est drôle, aujourd'hui je penserais plutôt pareil. Je pense que je peux rester 4 ans célibataire. Si je ne trouve pas quelqu'un qui me fait rêver, j'y vais pas. Voilà, clairement, j'ai tellement d'exigences aujourd'hui. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais pas du tout le même discours sur l'amour Et je pense que j'étais prête, enfin je pense pas, j'étais prête à accepter hein, des gens qui n'étaient pas forcément, qui cochaient pas toutes les cases, mais parce que voilà, je voulais vivre l'amour et puis tout est possible. Et puis voilà, je n'étais pas hyper exigeante. Aujourd'hui, je le suis et je vous invite à l'être également. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je n'écoute pas ces alertes-là et je fais des cauchemars toutes les nuits. Ça, surtout quand je dormais avec cette personne, mais je fais des cauchemars. Mais je suis hyper amoureuse. Et ça se passe de mieux en mieux, et c'est trop cool. J'ai même eu très rapidement une demande en mariage. Bon, cette personne avait une autre culture, donc pour elle, c'était absolument normal de demander rapidement en mariage. Pour moi, je savais que ça allait poser problème, donc je l'avais gardé pour moi et mes amis proches. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Et, enfin, pas tout de suite. Mais ce qui est drôle, c'est que je me suis vue doucement changer. Et alors, je ne vais pas vous dire que c'est cette personne-là qui m'a mis en dépression. Déjà, cette personne n'a pas apporté la responsabilité de mon état. Par contre, je pense qu'elle a contribué. Cette relation a contribué à me mettre dans un état pour me faire me rendre compte de beaucoup de choses. Hormis cette relation. En fait, moi, je prends toujours de la hauteur. Je me dis pas genre, cette personne-là m'a fait du mal et du coup, je suis une victime et maintenant, ça va mieux. Non, je me dis toujours qu'à l'échelle de la vie, ça, c'est un peu plus spirituel. C'est en ça hein, que je vous amenais dans l'idée de la dépression, c'est d'y mettre un peu plus de recul, un peu plus de sens. Voilà, si vous souhaitez en avoir, évidemment. Et en fait, je me suis vue ne plus me maquiller, alors que j'adorais ça. Vous allez me dire, bah, c'est rien. Ouais, même, mais je mettais plus de talons. Et je me souviens que l'homme avec qui j'étais me rabaissait pas du tout physiquement, ni me disait que pas le faire, mais il me disait très souvent, t'es tellement plus belle naturelle, etc., etc. Donc je me suis dit, oh, bon, ok. Donc, pour lui faire plaisir, je le faisais de moins en moins. Mais en même temps, parce que j'étais fatiguée, et j'avais l'impression que tout d'un coup, je commençais à m'effacer. Et c'était la fin de mon CDD, je me souviens. Donc, j'allais arriver doucement au chômage. C'était un désir de ma part pour pouvoir me lancer à fond dans mon projet d'émission. Au départ, je ne pensais pas que j'allais être entrepreneur dans toutes les casquettes. Enfin, je ne savais pas trop où j'allais, je voulais juste faire mon émission, mais c'était de l'entrepreneuriat, en fait, hein, de la réalisation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé aussi à manger de plus en plus, comme une perte de contrôle. Alors évidemment, je me contrôlais au niveau de la bouffe tout le temps. Mais là, c'était fou. J'ai perdu les pédales. Vraiment. Je me suis vue faire... Ça faisait des années que je n'avais pas fait des vraies crises d'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est que tu manges à plus en pouvoir, sans te faire vomir. Donc je pense que je devais manger, je ne sais pas, 4000 calories par jour, quand j'y repense. Voire 5. C'était fou. Ça ne s'arrêtait pas. Et je me disais, j'arrive pas à m'arrêter. Et après, j'ai mal au ventre, mais j'arrive pas à m'arrêter. Et donc, j'ai pris très rapidement une dizaine de kilos. Très, très rapidement. Et puis, j'étais de plus en plus fatiguée. Je dormais mal. J'avais mal au dos. J'en pouvais plus de ce mal de dos. J'essayais de faire du sport, mais j'arrivais plus. Moi, je courais à l'époque. J'ai couru pendant quelques années. J'adorais ça, courir. J'adore toujours ça, mais là, je ne peux pas physiquement. Et j'ai trop de surpoids. Et je courais, j'adorais ça. Et là, dès que je courais, j'avais mal au dos, ça me bloquait le dos, j'arrivais quasiment plus à marcher. C'était horrible, je me souviens que c'était horrible, je me disais, mais ça va jamais passer en fait. Genre des problèmes de dos, qu'est-ce qui se passe bon. Donc, je me néglige, je mange de plus en plus, je prends du poids, c'est une perte de contrôle. Hein. À ce moment-là, je veux dire, ne me venez pas parler de volonté, c'était pas possible pour moi. Après toutes les années à avoir contrôlé mon poids, c'était quelques années que je stabilisais. J'avais bien réussi à stabiliser pendant 3-4 ans, c'était cool. Et là, c'était mort, là, 10 kilos dans la tronche, je comprenais pas, je me sentais mal. Bon, évidemment, quand je vois les photos, je me dis que, comme tout le monde, en fait, j'étais bien. En fait, on s'en fout que j'étais bien, j'étais pas bien dans ma tête. On s'en fout du poids du corps, j'étais pas bien dans ma tête, je prenais du poids parce que j'étais en train d'avoir un comportement qui était un comportement de détresse que je ne comprenais pas. Alors, je peux pas vous donner une explication, hein. Je mangeais parce que je pense que c'était à la fois aussi une perte de contrôle, un lâcher prise, parce que bah, ça faisait des années que je contrôlais ma bouffe pour pas prendre du poids. Je pense aussi qu'il y avait une sorte de compensation, il y avait sûrement une réponse voilà, hormonale qui faisait que bah, ma satiété n'était pas là. Enfin, il y a une multitude de réponses, liées et conjointes, c'est ça qu'il faut savoir aussi dans l'aspect santé, hein. Toujours santé et psycho et tout ce que tu veux, il y a toujours des causes à effet hein, qui sont liées, il n'y a pas un truc, c'est parce que, et tac, il y a toujours un petit peu un truc de cause à effet. Et évidemment, bah voilà, je prends du poids, je prends du poids, je prends du poids. Et je suis de plus en plus fatiguée. Et je me souviens que donc le chômage arrive, c'était septembre 2019. Et j'avais, depuis juin, j'avais emménagé dans un super beau studio à la Grande Motte, là où je vis actuellement. J'étais trop bien. Le studio était tout meublé. C'était un petit studio de 22 mètres carrés, mais archi bien avancé, lumineux, agencé, pardon, lumineux. C'était un médecin qui, en fait, avait décidé de le louer. C'est un truc, en plus, c'était un truc de bouche à oreille. Je me retrouvais normalement sans appart, genre, je sais pas, un mois avant. Enfin, trop bon timing. Enfin, ici, dans le Sud, c'est beaucoup des contacts. Hein. Faites-vous des contacts si vous venez dans le Sud, c'est la vie. Mais voilà, c'est de contact en contact et j'ai vraiment un coup de chance. Et c'était trop cool, j'étais trop contente, je kiffais cet appart de fou, voilà, j'avais une place pour ma voiture, enfin c'était top, franchement j'avais rien à dire, j'étais trop contente de trouver cet appartement. Et le but c'était quand je suis entrée dans cette relation, parce que j'ai rencontré cet homme-là 2 mois avant d'emménager, c'était qu'on vive entre Paris, parce qu'il habitait Paris, et la Grande Motte. Et en fait ce qui s'est passé c'est que... Eh ben, j'étais fatiguée. Mais quand je vous dis fatiguée, c'est que j'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Une fatigue intense. Rien que de le dire, ça me fatigue, là. J'étais fatiguée, c'est-à-dire que même me lever, même marcher était douloureux pour mon énergie. Pas physiquement dans mon corps, mais j'étais fatiguée. J'avais toujours l'impression, j'ai toujours eu l'impression de porter mon ventre, qu'il soit gros, qu'il soit pas gros. Sauf dans des périodes de contrôle ou ce genre de choses, mais j'ai toujours l'impression de porter mon ventre, d'être lourde comme ça. Et là, c'était fois 10 000, quoi. C'était insupportable. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait et je pleurais aussi. Je pleurais tellement. Je pleurais sans comprendre pourquoi je pleurais. Et on arrivait du coup au fait que je trouve un appartement à Paris, on met nos deux noms dessus. Au final, je décide de quitter le Sud et de monter définitivement à Paris en me disant que j'allais revenir un jour parce que j'aime trop le Sud, j'aime trop là où je vivais. Et je me souviens, quand j'ai pris la décision, je pleurais de fou. Il y avait déjà une réponse hein, dans l'émotion. Mais je pleurais de fou. Je savais en fait que c'était une connerie, mais c'était la fatigue en fait. Et finalement, je me suis dit en plus, ça va faire des économies parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de cette façon de penser. Vu que j'étais dans la peur du manque, je me disais, on s'aime. On a trouvé un super appart à Paris, bon vu notre métier, parce que lui il était aussi dans l'audiovisuel, on a entre guillemets plus ou moins le même métier, on monte à Paris, on nique tout, et puis voilà quoi, tu vois, on va tout donner, ça va être génial, c'est pas grave, je viendrai dans le Sud de temps en temps, mais c'est pas comme si la première fois que je quittais tout pour un mec, mais c'est pas grave, je refais la même erreur. Nous aimons les schémas répétitifs, en général une fois... Des fois, une fois, ça suffit pas. Hein. Il faut le faire 3-4 fois. Hein. Moi, j'étais à ma quatrième. Et donc, du coup, j'abandonne pas du tout mon projet. Par contre, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'avais évolué. Dans cette relation, j'ai pas abandonné mon projet, mais j'ai abandonné mon rêve de vivre au bord de la mer. Et en plus, j'allais être au chômage. Donc, ça veut dire que j'allais pouvoir être totalement au bord de l'eau à travailler sur mon projet. Et puis, il y avait tout un paramètre aussi, c'est que... pour faire le montage vidéo, j'avais pas le matériel adéquat, c'était justement mon conjoint de l'époque qui avait le matériel adéquat pour faire le montage de la vidéo. La vidéo était tellement... Enfin, je pouvais pas acheter un ordi lambda, il fallait un ordinateur quand même conséquent. Bref, le côté économique m'a aussi motivée, plus tout le côté, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie. En fait, j'avais pas d'énergie. Le fait de pas avoir d'énergie, franchement, il y a rien de pire dans la vie quand t'as pas d'énergie. Mais on peut avancer, et je vais vous le prouver, même quand on n'a pas d'énergie. Sauf qu'on va juste avancer plus lentement. C'est juste ça. C'est un ralentissement. Et c'est OK. Parce que là, en fait, est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, j'ai pu éviter cette dépression ? Non. Même si les choix que j'ai pris, même si tout ce que tu veux a fait que j'ai fini par être dans cet état-là, c'est l'histoire, c'est le chemin de ma vie, quoi. J'ai pas pu empêcher que ça arrive. Je me suis pas dit « Oh, tiens, on va se mettre en dépression ». Je me suis pas dit « Tiens, faisons les mauvais choix ». Là, c'est pas des mauvais choix, c'est des expériences en fait. Donc je fais toutes ces expériences et j'arrive dans cet état. Je quitte le Sud, très très triste de quitter le Sud, et ça se passe pas bien du tout là-haut. Clairement, ça se passe pas bien du tout. Pas bien. Voilà, dans l'ensemble, il y a eu des bons moments évidemment, mais dans l'ensemble ça se passe très très mal. En plus, moi, j'adore me sentir bien chez moi, donc on refait l'intérieur. Je me sens pas bien, donc je suis pas forcément agréable non plus. Lui, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à gérer ses émotions. Je vivais dans une violence psychologique quand même assez quotidienne et dans la peur. Voilà, c'est une des seules personnes. Enfin, j'ai eu peur de deux hommes dans ma vie et il en a fait partie. Pourtant, je lui portais toujours beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, je aucune rancœur ou quoi. Enfin, je lui souhaite vraiment tout le bien. Je sais qu'il a cartonné dans son métier, donc je suis trop contente. Mais voilà, à ce moment-là, je pense que c'est quelqu'un qui est immature, qui manque de gestion émotionnelle et qui me fait peur de par ses émotions, comme moi j'ai pu faire peur avec mes émotions à plein de gens, parce que on est tous le toxique de quelqu'un par moment, ça arrive, enfin tous non, mais ça peut l'être. Et donc bref, et donc du coup cette dépression, elle a duré, si je devais la quantifier, elle a duré un an, plus ou moins, avec un début progressif et une fin progressive, mais il y a eu, je crois, peut-être 6 mois violents, 6 mois violents. Je vois là 6 mois hardcore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'emménage avec quelqu'un, voilà, je vous explique la situation, je fais mon émission, et je vis le truc archi dur. En fait, je vis le truc archi dur parce que, en plus, je vivais en région parisienne, je me souviens, je vivais à Maisons-Laffitte, dans le 78, en face de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, pour ceux qui connaissent, je voyais le château de Maisons-Laffitte quand je sortais, et ceux qui me connaissent de l'époque, j'ai vécu moins d'un an là-bas, un peu moins d'un an, 8-10 mois, quelque chose comme ça. Et l'appartement, on en avait fait quand même quelque chose de sympa, parce qu'à la base, c'était pas trop ça, mais il y avait du potentiel. En plus, on avait une terrasse extérieure, donc on avait mangé dehors, enfin, c'était cool. Mais moi, je me souviens qu'à ce moment-là, ma dépression, physiquement, elle me pesait. C'est-à-dire que même marcher était devenu douloureux. Je commençais à avoir de l'acné vraiment de façon hardcore. Et c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Vraiment, j'étais dans un état. Voilà. Et en fait, je me souviens que les pics hardcore de la dépression, ça a été les pensées noires. Où tu te dis, mais en fait, tout le monde s'en bat les couilles de moi. En fait, là, si je meurs, il se passe rien. Enfin, je manquerai à personne, en fait. Je sers à rien. Ma vie n'a aucun sens. Je suis une grosse merde. Je n'ai pas de thunes. Je suis au chômage. Je suis là avec mes rêves là, de gamine. Je me sens seule. Je suis pas épanouie dans mon couple. Bref, compliqué. Très compliqué. Alors, évidemment, je vous passe l'histoire très. Comment dire, on est sur du Roméo et Juliette, hein, voilà. C'est-à-dire que dans toute cette histoire, il y a mon ex-conjoint dont je vous ai parlé au début qui revient au galop. Vous savez, ce fameux homme masqué, Monsieur S, que beaucoup ont connu sur les réseaux, qui a appris cette relation et qui évidemment a contribué à je pense aussi, pas à mettre fin à la relation, mais à me faire me rendre compte que je peux pas être avec quelqu'un en pensant à quelqu'un d'autre à ce point-là, tout du moins. Mais peu importe, je quitte cette personne. À un moment donné, il y a eu en fait une rupture et on s'est remis ensemble. Il y a eu une rupture où j'ai retenté avec mon ex. Ça n'avait en effet aucun rapport, hein. J'ai quitté cette personne au bout de quelques mois à Paris parce que, bah, comme je l'ai dit, il y avait vraiment beaucoup de violence psychologique et verbale que je trouvais anormale, des réactions extrêmes. Et il y avait quand même une opposition de ma part. Mais en fait, bah, rapidement, j'ai rappelé mon ex parce qu'il y avait vraiment ce besoin de reconnecter tout de suite. C'était aussi mon meilleur ami. J'ai envie de dire que ça, c'est comme si c'était toujours mon meilleur ami en soi. Mais du coup, voilà, on s'est remis ensemble pendant quelques semaines. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, en fait, que je n'étais pas du tout prête. Je me suis remis de nouveau avec la personne que je venais de quitter, mais ça a duré très peu de temps. Et de toute manière, voilà, c'était déjà mort, mais ça a duré très peu de temps pour plein de raisons. On s'est remis ensemble. Je pense que la raison matérielle, même, je vous le dis, a contribué, hein, clairement. Je me sentais en détresse matérielle et financière en me disant, mais en fait, je suis dans la merde, je dois gérer un appart où j'ai payé tout toute seule, j'ai racheté les meubles, j'ai fait un crédit. Enfin, c'était oh, la galère. J'ai mis des années à rembourser ce crédit d'ailleurs. Bref, vraiment les mauvaises décisions, tu vois. J'ai toujours mal au dos, je suis toujours au bout de ma vie. Et vraiment, je me vois, putain, je me vois encore physiquement avoir du mal à me lever. Et il y a deux choses qui m'ont sauvée à l'époque. C'est mon chien et mon projet. Parce que mon chien, en fait, bah, il est là. Il faut le sortir. Donc lui, il t'oblige, tu vois, à te mettre debout, à marcher. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, il y a l'optimisme. L'espoir est là, mais il est vraiment, vraiment infime. Il y a un espoir, parce que l'espoir, c'est lui qui dit qu'il faut manger, qu'il faut respirer, voilà, il y a l'instinct de survie, il y a l'espoir. Mais franchement, à ce moment-là, je me dis, ma vie n'a aucun sens, quoi. Je fais souffrir deux hommes que j'aimais, parce que je les ai souffrir quand même, hein, de part de quitter, se remettre avec quelqu'un et tout. Tout le monde souffre dans l'histoire, il n'y a pas que moi, c'était un bordel sans nom. Je sais pas où est-ce que je vais avec mon projet, parce que je sais que c'est un projet qui n'est pas but lucratif. Moi, sur les réseaux, je cherchais pas forcément à percer, mais je perçais pas du tout. Je sais pas, je devais avoir genre 1500 abonnés, mais c'est pas particulièrement grand chose. Je veux dire, j'avais pas de projet, j'avais pas ce genre de choses, à part mon émission. Je suis perdue, je suis perdue, je suis mal physiquement, je suis mal psychologiquement. Je peux même pas vous dire, genre, mais pourquoi j'étais mal? J'étais mal! J'arrivais même pas à dire pourquoi j'étais mal. Si ce n'est que, bah, évidemment, je me trouvais des raisons en me disant, bah ouais, j'ai pas de thunes, je me sens fatiguée, j'ai mal au dos, je me sens handicapée, en fait, mentalement et physiquement, parce que la dépression, ça attaque le corps physique. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la dépression. En fait, tout ça, c'est des cercles vicieux, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc j'ai tenté, bah, j'ai vu des ostéos, des chiro, des machins, j'en ai vu des choses, j'ai tenté de faire du sport, ça tenait jamais. Par contre, je marchais beaucoup. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais fait un suivi avec une naturopathe et je marchais beaucoup. J'avais essayé de modifier mon alimentation 15 000 fois, mais je continuais à prendre du poids. Progressivement. Très bizarre. Et je comprenais pas, alors que je faisais vraiment tout bien. Bref, tout ça pour dire que vraiment, 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 la dépression, c'était hardcore. On était vraiment sur un truc hardcore parce que j'arrivais pas à comprendre tout le sens de ce qui se passait. J'arrivais pas à contrôler. La seule chose qui me tenait, c'était deux choses qui me mettaient en mouvement. Le concret, si je sors pas mon chien, bah il va se pisser dessus, il va chier dans l'appart, il va être mal, enfin peu importe, c'est hors de question. Donc en fait, c'est bah il faut le faire, c'est ma responsabilité. Ça aurait pu être un job, hein. J'aurais pu peut-être aller au boulot, on est déjà en dépression, que le job, ça les met en mouvement, même si c'est hardcore d'y aller. Bah, moi, c'était hardcore. Je me souviens que je marchais au ralenti dehors et je pleurais. Et comme il faisait jamais très très beau en Île-de-France, j'ai quand même souvenir, sachant que j'avais quitté le sud dans lequel j'étais arrivée depuis un an, j'ai souvenir vraiment de vivre souvent, très souvent dans le gris, d'aller dans la forêt qui fait gris, qui pleut. Je me souviens même que pour sortir, je mettais des bottes de pluie. Il y avait des bottes de pluie devant chez moi. Je mettais des bottes de pluie pour sortir dans la forêt. N'était pas des baskets, non, des bottes de pluie, quoi. Pour vous dire tellement à quel point, voilà, c'était pas souvent très sec. Malgré tout, je pense que mon chien, il devait kiffer, lui. On a kiffé aussi toutes les tiques dans les forêts, ça, c'était sympa de ouf. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça qui mettait en mouvement. Et mon projet, ça me permettait de me tenir en haleine, me permettre de me dire, j'ai un objectif. Voilà, je suis en dépression, je suis au chômage, mais malgré tout, j'ai un truc qui me tient. Un truc. Et j'avais pas les moyens d'aller voir une psy. Hein. Par contre, fallait pas me parler de psy ou genre de choses, j'avais pas les moyens. Donc, j'avais pas de mutuelle. J'avais pas de mutuelle, les gars. J'avais pas de mutuelle, j'avais pas les moyens. Donc, moi, je sais ce que c'est de pas pouvoir se guérir. Là, aujourd'hui, je fais beaucoup. Enfin, là, je prends énormément soin de ma santé à tous les niveaux. Et croyez-moi que si j'avais pas de thunes, je pourrais pas faire tout ce que je suis en train de faire. Et j'ai pas tout soigné, tout guéri. Il me manque beaucoup de réponses. Mais c'est pour vous dire à quel point. Le manque d'argent a un gros impact aussi sur le traitement de notre santé. Et je sais à quel point c'est compliqué. Donc bref. Et donc du coup, c'était l'espoir. Et je me souviens, tu vois, le fait de traverser, de vivre la dépression, il y avait une honte. Il y avait une honte. Je ne vais pas vous mentir, c'est normal d'avoir la honte dans un système qui invisibilise. Ouais, je l'ai bien dit, invisibilise les maladies mentales, qui invisibilise le mal-être, comme si en fait il ne doit pas exister. Tu dois être optimiste, tu dois aller bien. Non, il n'y a pas d'obligation à aller bien, c'est une invitation pour soi-même, c'est mieux d'aller mieux, mais parfois on n'y arrive pas. Parfois c'est plus fort que nous, parfois on traverse des périodes sombres. Et j'en parlais avec des personnes que j'avais ce week-end. Durant le week-end de conférence, j'ai donné une conférence au Prosperity Meeting qui était incroyable. J'ai adoré toutes les rencontres que j'ai faites, surtout avec les intervenants autour de moi. J'ai connecté avec des gens incroyables. Et on parlait de l'astrologie et tout ça, et on parlait par exemple du scorpion. Et on s'en fout hein, que vous soyez scorpion ou non, mais dans le scorpion, il y a vraiment ce truc de je traverse les pires choses qui puissent m'arriver dans ma vie pour rebondir et aller vers quelque chose de plus puissant. Et comme si j'avais ce besoin en fait de renaître de mes cendres, quoi. Vraiment le côté phénix. Mais on est très nombreux à vivre comme ça. Alors, je pense que ça peut peut-être des fois être, alors même si on l'a pas cherché évidemment les épreuves, mais ça peut être parfois des départs de, c'est-à-dire au départ je voulais pas, enfin comment expliquer? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pas comme ça. on peut traverser ça, ce mode de fonctionnement, et puis après, ça change. C'est-à-dire qu'on ne veut plus aller jusque-là, quoi. On ne veut plus aller jusqu'à « je meurs pour renaître ». Vous voyez ce que je veux dire ? Je vis un truc de barjo pour me donner un coup de boost pour que ça change. Je vais vous donner un très bon exemple après. Et du coup, bon là, on parlait du scorpion, moi, je suis ascendant scorpion, on parlait de cette particularité-là. Mais en vrai, c'est, voilà, c'est valable pour beaucoup de gens. Et à ce moment-là, je pense que j'avais... Pourtant, j'allais super bien. Je me souviens qu'avant de tomber en dépression, j'étais trop au top. J'étais archi au top, je me sentais bien pendant les 4 derniers mois. Je sortais d'une grosse déprime de ouf de quelques mois, difficile. 4 mois, ces mois-là où j'étais pas bien, j'ai tout mis en place pour aller mieux. Et bim, j'allais mieux. Et après, c'est redescendu crescendo les mois qui ont suivi. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais bien et puis ça va pas. Et ça vous fait vraiment perdre aussi l'estime que vous avez en vous. Et du coup, ça m'a fait douter sur la confiance que je plaçais en moi. C'est-à-dire que ce que j'ai pas écouté, j'ai pas fait confiance à ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré cet homme. J'ai pas fait confiance à ce que j'ai ressenti quand j'ai décidé de quitter le Sud. J'ai pas écouté ce que j'ai ressenti dans ces deux cas-là. Et sûrement d'autres choses que j'ai oubliées depuis. Mais il y a plein de choses comme ça que j'ai pas écoutées. Par contre, j'ai écouté le fait de jamais abandonner mes rêves. Le fait de rester debout, en fait. De pas abandonner, en fait, de pas me foutre en l'air, hein, simplement, parce qu'abandonner, en fait, c'est se foutre en l'air, hein, pour moi, sinon, t'abandonnes pas. Et puis, de pas abandonner l'idée que ça allait mieux. Et je vous ai dit, j'ai vu des stories où il y a écrit que je crois que ça va aller mieux. En fait, je sais que ça va aller mieux, j'y crois, je crois que Dieu a un plan, quoi. Et c'est trop beau, parce qu'il y avait vraiment un plan. Et du coup, comment on traverse pleinement sa dépression ? Enfin, si on était libre de la traverser pleinement, parce qu'on est dans une société aussi où, comme c'est une maladie mentale, évidemment qu'il faut la soigner, on est bien d'accord. Mais quand elle est là, le fait de... Alors, il y a une lutte, mais... Enfin, il y a une lutte, soit, oui, mais il y a un combat plutôt intelligent à mener. La dépression, elle a un message. Pour moi, la dépression, elle a un message. Moi, le message, c'était qu'évidemment, j'étais pas du tout au bon endroit, au bon moment, enfin, au bon endroit tout court, dans cette relation, dans cette géographie... dans ma place aussi, en fait, je pouvais faire beaucoup plus que juste mon émission, que j'avais aussi d'autres choses à tenter. Et donc, du coup, j'étais tellement malheureuse dans cette relation. Enfin, j'étais malheureuse. Je voyais très bien que cette relation était morte. Je voyais bien qu'on n'arrivait pas à relancer le truc. Lui, il m'en voulait terriblement de l'avoir quitté et de m'être mis quelques semaines avec mon ex, ce qu'on peut absolument comprendre, évidemment. Je le trouvais très, très courageux d'avoir réaccepté d'être avec moi et de revivre avec moi quelques mois. Donc j'ai dit écoute on va arrêter là et on n'a pas réussi à enlever vivre 3 mois ensemble avant que je retourne dans le sud parce que du coup j'ai décidé de retourner dans le sud, c'est la première fois que je retournais dans une ville où j'avais été par amour pour moi et pas pour un mec ou un taf ou quoi ou qu'est-ce alors que j'avais pas de thunes du tout hein. En fait à un moment donné je me suis dit j'ai pas de thunes c'est pas grave je me casse de trouver des solutions, je vous jure c'est vraiment là que tout se passe, la magie opère quoi. Et j'ai vécu chez ma sœur parce qu'en fait au bout d'un mois à vivre ensemble franchement on avait failli se taper sur la gueule hein, clairement. Et c'était un peu violent. Et je me suis dit, ok, la prochaine, je vais manger une claque, quoi. Et je voulais pas. Donc j'étais en pleurs et je me suis dit, mais pourquoi je vis encore de la violence ? Je n'en veux plus, je veux plus ça. Ma sœur m'a dit, écoute, tu te casses, tu viens. Tu viens chez moi cet été. Et donc c'était l'été 2019. 2019 ? Oui, l'été 2020, c'était l'été de mes 30 ans. Et donc, en été 2020, je pars vivre en Lorraine pendant un mois et demi, quelque chose comme ça, ouais, un mois et demi. Et c'est là où je me suis lancée vraiment sur TikTok, un peu au hasard, si je puis dire. Et que ça a explosé. Et que j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je fasse une thérapie parce que j'allais faire un transfert dans le succès et dans l'argent. C'est qu'en fait, j'ai compris tout ce qui allait m'arriver. C'est trop bizarre. C'est comme si tout ce qui se passe là, c'est fou. C'est juste dingue. Mais en fait, c'est OK parce que c'était vraiment tout ce que je voulais. C'était mon rêve. Tout ce qui se passe dans ma vie et ce qui va se passer dans les années à venir, si Dieu le veut et si la vie me permet encore d'être sur Terre pour accomplir tout ça, tout ce qui va se passer, c'est vraiment ce que j'ai rêvé depuis des années, quoi. Et je réalise que je vais faire vraiment ce que j'ai rêvé depuis des années alors que je pensais que c'était éteint à certains endroits. Bref, et c'est ça qui est beau. C'est que, en fait, j'ai pas... Comment dire ? J'ai pris conscience des opportunités et j'ai compris conscience de l'opportunité de la dépression. Elle m'avait forcé à arrêter d'avoir peur. Ouais. La dépression m'a forcé à arrêter d'avoir peur, à oser dire non, à quitter, à recommencer, à me faire putain de confiance. Moi, la dépression, elle m'a apporté la confiance en moi. De façon indirecte. Mais elle me l'a apporté. Elle m'a dit, tu savais. Tu savais déjà. Tu as été parce que tu es venue valider des croyances, des blessures, etc. Mais tu savais déjà que cette personne était bonne pour toi. Tu savais déjà que tu n'étais pas heureuse à Paris. Tu savais déjà que tu allais pouvoir t'accomplir toute seule. Tu savais déjà que tu n'avais pas besoin de lui pour ton projet aussi professionnel. Tu savais déjà que tu allais trouver des solutions financièrement. Tu sais. Le truc, c'est que je voulais pas demander de l'aide à ma famille. Donc, quand j'ai appelé ma sœur, j'étais vraiment en détresse émotionnelle. Et en me disant, d'une certaine manière, je me suis dit, si je suis en détresse, je l'ai pas fait exprès, évidemment, mais c'est là où on va plus facilement te dire oui. Tu te dis, ouais, je peux venir, tout ça. Voilà, les personnes, en général, te disent plus facilement oui quand on sent que c'est un peu la dernière chance que si c'est ouais, est-ce que je peux venir? Parce que j'ai même pas pensé. J'ai pas pensé aller à chez n'importe qui dans ces moments-là, quoi. Et donc, progressivement, en fait, déjà, je sortais progressivement de la dépression, hein, et j'étais quand même toujours pas bien chez ma sœur. Je me sais que j'avais des pensées très noires, j'avais des souvenirs du passé qui me revenaient, des choses dans lesquelles je me sentais extrêmement coupable. J'avais beaucoup de dégoût pour moi, de honte. C'était assez violent. Et ouais, c'était assez violent. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses et c'était waouh, c'était très hardcore. Mais j'ai traversé tout ça et je vais pas tout vous raconter dans les détails, mais voilà, je suis revenue dans le sud et j'ai bouffé des pâtes pour atteindre mes rêves. Et des fois, c'était dur, mais j'étais plus en dépression. Parce que j'étais à ma putain de place. Voilà, j'étais à ma place. J'étais dans le sud. C'était toujours le Covid machin, mais c'est pas grave. J'avançais, j'avais de plus en plus d'abonnés, je savais pas comment gagner de thunes, mais voilà, j'ai fini par... Et encore, même là, je me rends compte que au niveau professionnel, j'ai rencontré des entrepreneurs, je vous jure que je convertis pas du tout bien. Je pourrais gagner beaucoup plus d'argent, mais parce que jusqu'à maintenant, en fait, je suis pas en focus full thunes, rentabilité, etc. Moi, ce qui compte, c'est vraiment que je fasse ce que j'aime en premier. Pour moi, c'est le plus important, c'est je fais ce que j'aime en premier. Si je peux le monétiser parce que je trouve ça légitime de le monétiser pour le travail que j'accomplis, je le fais. Sinon, je le fais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, bah, les vidéos, elles sont gratuites sur Internet. J'ai pas du contenu payant. Je vais pas faire une chaîne payante sur YouTube. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup de contenu gratuit, énormément, et je fais quelques événements payants. Bon, peu importe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, du coup, je me suis... J'étais en galère de ouf à l'époque. J'avais des abonnés, mais genre, je convertissais pas. Et c'était tellement dur pour moi que je me disais, mais en fait, je comprends pourquoi il y a des gens qui arrêtent, parce qu'on n'apprend pas à comment faire de l'argent avec ton talent en tant qu'artiste, en tant que... Je me considérais pas comme coach pendant très longtemps, je réfutais ça. Bref, puis j'avais mon émission, j'avais du mal à la sortir, bref. Mais peu importe, j'allais mieux parce que j'étais à ma putain de place, même si je galérais financièrement, même si des fois c'était dur, même si, voilà, j'ai déjà fait des vidéos où on me voit pleurer parce que c'est dur, je savais que tout ce que je faisais, c'était bien. J'étais super fière de moi d'avoir retrouvé un appart, de m'être débrouillée, d'avoir demandé de l'aide un tout petit peu comme il faut avec les bonnes personnes qui n'ont pas profité de moi, qui m'ont tendu la main généreusement. Franchement, je me suis démerdée toute seule. Et jusqu'à qu'il y ait des gens, même aujourd'hui, des fois, qui me tendent la main, qui me donnent des opportunités, mais je bosse toute seule. Je me suis formée toute seule sur les réseaux, je me suis formée toute seule à beaucoup de choses. J'ai fait ma thérapie, etc. Et c'est là où je me suis dit, mais putain, la dépression, elle avait un putain de sens. Quand j'ai commencé, justement, on va dire, quand je suis revenue en Sud, et que, enfin, même quand je me suis dit, si j'avais pas été chez ma sœur, j'aurais probablement pas fait un TikTok. C'était un TikTok en maillot de bain. Mon ex avec qui j'étais, il m'aurait jamais accepté. Parce qu'on avait déjà des débats sur mes photos de lingerie, parce que j'étais modèle photo pendant quelques années. Donc je me suis dit, j'aurais jamais fait. Donc c'est ça qui est hyper stylé, en définitive, c'est que bah, tout ça, ça avait un sens. Ça avait un putain de sens. Et le sens, c'était d'apprendre à me faire confiance, comme je vous l'ai dit. Donc quand tout ça est arrivé, je me suis dit, mais c'est pas que je pourrais plus jamais être en dépression. Parce qu'on peut pas savoir ce qui peut se passer. Des fois, au niveau neurologique aussi, il peut se passer des choses qui sont au-delà de notre volonté. Et là, je pense que c'était aussi des conséquences, hein, des conséquences sur le corps qui emmènent au niveau hormonal aussi un état dépressif, plus tout l'état psychologique. Hein. Comme je dis, c'est un cercle vicieux, si je puis dire, mais c'est vraiment des choses qui sont de cause à effet multiples. Et je me suis dit, mais ouais, Dieu avait vraiment un plan pour moi. Il était là pour m'enseigner un gros truc. Et c'est à moi de pas refaire les mêmes conneries. Bah déjà, d'arrêter de vouloir emménager au bout de 6 mois avec tous les mecs que j'encontre. Ah, c'est bon, ça j'ai compris. Je peux vous dire que j'ai vraiment compris. D'arrêter d'investir aussi dans des appartements avec un mec. D'arrêter d'investir, de mettre trop d'énergie dans le fait que ça... Pour la personne. Enfin, j'étais toujours pareil. Je visais son site internet, machin, les factures, les trucs. De trop donner et de m'oublier. Je l'ai aussi fait dans mon entourage plus proche où j'ai aidé quelqu'un à développer son business. Et puis je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux le faire pour moi. La dépression, elle m'a remis au centre. Elle m'a putain mis une claque au centre. Mais je peux vous dire que quand je l'ai traversée, j'avais le petit espoir, mais j'avais un autre truc où je suis seule tout. Je suis seule tout. Tout le monde s'en carre de moi. Je suis triste. Je suis seule. C'était horrible. C'était horrible. Et puis, tu vois que ça, en fait. C'est comme si toute ta vision, tout ton champ des possibles, il était restreint à un couloir noir. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu es dans un couloir noir. Et je vous jure que d'imaginer une lueur au fond du tunnel, même ça, c'était compliqué. Mais il y avait une petite éclaircie très, 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 très loin. Et je me suis accrochée à ça. Et je me suis donné les moyens, évidemment, d'en sortir. Mais il y avait des périodes, évidemment, où, franchement, je dis, s'il n'y avait pas mon chien, je restais dans mon lit pendant une semaine. Je me levais pour pisser et puis pour manger un bout et c'est tout. Et si j'étais libre de traverser ma dépression, bah peut-être que justement, la réponse allait... peut-être que je vais découvrir des choses à l'intérieur de moi. Peut-être que je vais découvrir aussi quel est le sens à tout ça. Il y en a toujours un petit. Peut-être pas tout. Peut-être on peut pas c'est aussi ok qu'on ne peut pas tout expliquer, mais peut-être qu'on peut faire confiance au temps qui va nous donner des réponses. Et on fera du mieux qu'on peut. Mais c'est important de se raccrocher à un truc. On a toujours un truc auquel on se raccroche. Des fois, ça va être un enfant, un projet, un job, un rêve. Un rêve, juste un rêve. Un rêve, c'est quelque chose. On a tous un rêve. On a tous un rêve. Mais le rêve, c'est pas forcément d'accomplir quelque chose de grand. Hein. Le rêve, c'est pas... voilà. On peut juste avoir le rêve de se dire, j'ai envie de partir, visiter le Japon. Je sais pas. Ça peut être un rêve, un projet qui nous amène dans l'élan, dans l'action. Donc, si j'étais libre de traverser... si j'étais libre de traverser pleinement ma dépression, je dirais... qu'enfin, j'apprendrai à travers ma dépression à avoir totalement confiance en moi.